d'intervenir en fait sur la réception par les professionnels et les décideurs des enquêtes sociologiques sur des projets urbains. Alors pourquoi on a voulu faire cette intervention à trois ? C'est parce qu'on a en fait tous les trois travaillé sur des terrains très proches puisqu'ils étaient situés dans l'agglomération grenobloise, que c'était des terrains, donc notamment la caserne de Bonne, mais pas seulement, que c'était des terrains qui avaient été commandités par des acteurs impliqués dans ces projets urbains, donc des architectes, des aménageurs, des collectivités locales, et qu'ils ont été donc confrontés aux résultats de nos recherches, ce qui nous a permis de recueillir, on va dire, les réactions. Et donc, on était effectivement dans ce cadre de la recherche appliquée, donc soit en tant que sociologue indépendant ou doctorant CIFRE. Donc, on va essayer de raconter, finalement, chacun notre tour, en 10 minutes, comment ces résultats ont été reçus par les acteurs concernés. Deux remarques avant de laisser la parole à Vincent. C'est que, d'une part, on n'a pas la prétention d'être exhaustif dans la mesure où on n'a pas accès à toutes les réactions que provoque un travail de recherche. Il y a des choses qu'on ne voit pas, donc ce qu'on va se dire, ça se limite aux choses qu'on a pu voir dans le cadre de présentations et d'échanges divers. Et puis l'autre élément, c'est qu'on ne postule pas une différence de nature entre la réception de nos travaux par des professionnels et la réception des travaux par nos collègues académiques ou praticiens. Hein, il y a peut-être même des analogies à faire entre les deux.
Moi, je vais commencer en fait par vous présenter le contexte et les principaux résultats de l'enquête que j'ai menée dans un bâtiment de logement social à Grenoble, dans la ZAC de Bonne. Et puis ensuite, on verra comment en fait le fruit et le résultat de cette enquête a été approprié, mobilisé, perçu par le bailleur social lui-même, c'est-à-dire celui qui avait qui était maître d'ouvrage sur ce bâtiment innovant. Donc cette enquête, je l'ai menée pendant ma thèse, c'était en 2011. Donc on était dans du logement social et c'était véritablement à l'époque un bâtiment qui était en pointe en matière de performance énergétique et d'innovation technique. Puisqu'on y trouve par exemple une façade végétalisée, on trouve une double peau aussi en polyuréthane qui isole par l'extérieur, donc sans PVC. Il y a aussi une passerelle en bois dans les espaces collectifs pour maximiser l'éclairage naturel et aussi permettre que les logements soient traversants. On a dans les logements, on a un lino qui était assez innovant, un lino écologique en marmoléum. On a une ventilation double flux. On trouve aussi un interrupteur coupeur de veille qui était prévu justement pour faciliter l'extinction des veilles par les habitants. Donc c'est, en fait pour moi c'était un terrain vraiment passionnant et assez intéressant parce que l'objectif de l'enquête c'était précisément en fait de montrer comment les habitants, les locataires, en l'occurrence, à la fois utiliser, mais aussi percevoir ces innovations techniques dans la vie de tous les jours. Alors, pour vous résumer les résultats en fait de cette enquête, si ça marche, voilà. Pour vous résumer en fait les résultats de l'enquête, il y a à mon sens trois grands constats qui ont émergé. Voilà. Le premier, c'est que le bailleur social avait mis en place une pédagogie importante à destination des locataires. Voilà, à différents moments, au moment de la remise des clés, de la levée de réserve, en organisant des réunions spécifiques, en mobilisant aussi le chargé de secteur du bâtiment ou encore la personne en charge de l'entretien. Donc il y a tout un tas de stratégies, de dispositifs pédagogiques mis en place par le bailleur. Donc ça, c'est le premier constat qui a émergé. Le deuxième constat, c'est que malgré cette pédagogie importante, les habitants utilisaient les nouveautés techniques très différemment, forcément, de ce qui était prévu par les modes d'emploi et les concepteurs. Donc j'ai constaté qu'ils bricolaient et qu'ils détournaient les innovations précisément pour en faire usage dans la vie quotidienne. Alors par exemple, il y a tout un tas d'exemples, j'en donne que quelques-uns pour que ça donne des repères. Dans le cas de la façade végétalisée, les habitants mettaient des insecticides ou encore coupaient vraiment les feuilles pour repousser en fait le végétal du balcon, parce qu'ils jugeaient justement que c'était envahissant vis-à-vis de leur espace privé. Donc ils repoussaient le végétal, certains allant jusqu'à détourner le système d'arrosage. Alors ensuite, ils nettoyaient aussi le lino écologique de leur logement avec de l'eau, du produit détergent, des produits ménagers et notamment de la javel, ce qui était totalement interdit par le mode d'emploi. Ce n'était pas du tout prévu par les concepteurs. Ou encore, ils utilisaient l'interrupteur, le fameux interrupteur de prise, coupeur de prise, interrupteur de veille dans le salon, donc non pas pour éteindre leur veille, pas du tout, mais pour faciliter l'éclairage de lampes d'appoint. C'est-à-dire finalement, ils ont ajouté parfois même une lampe en se disant pour que ça serve, autant mettre une lampe, comme ça, ça va faciliter l'éclairage. Ce qui m'amène en fait au troisième constat principal de cette enquête, celui que j'appelle de la contre-productivité ou de la contre-performance à l'usage. C'est-à-dire que le décalage entre les comportements exigés par les modes d'emploi et ceux réellement constatés sur le terrain, ça venait souvent contredire les prévisions à la fois environnementales, mais aussi économiques du bailleur, notamment sur les coûts de gestion. C'est-à-dire, autrement dit, pour le bailleur, est-ce que c'était vraiment performant de mettre en place des ventilations à l'époque très innovantes comme la double flux, si les habitants aèrent toujours quelque part dans leur logement et donc ça vient perturber le cycle aérolique, les moteurs s'embrouillent, ça s'encrasse plus vite, enfin ça devenait après des problèmes en gestion. Ou est-ce que c'était vraiment efficace pour le bailleur de mettre un sol, un lino écologique en marmoléum avec de la fibre de lin, la fibre de bois, de l'huile de lin, etc. Si finalement la pratique des habitants venait dégrader le sol au fil du temps, puisque ensuite la question s'est posée de changer le sol pour le bailleur. Donc j'en viens maintenant au résultat, à la réaction du bailleur lorsqu'il a eu connaissance des résultats de l'enquête et lorsque je lui ai présenté ces résultats en fait à plusieurs reprises sous forme de conférences, mais aussi de discussions de couloirs. En fait, à vrai dire, j'ai été assez surpris de la réaction du bailleur. Puisque les directions, en fait les différentes directions du bailleur social, ont trouvé l'étude passionnante. Et se sont même justement appuyées sur ces résultats pour justifier certaines de leurs stratégies, et deux en particulier. La première, c'est la stratégie d'expérimentation. C'est en partant du fait que l'expérimentation architecturale, technique, en bousculant justement les habitudes, les comportements, finalement, ça permettait de faire réfléchir les habitants, d'amener des prises de conscience. Donc le fait que les nouveaux logements ne viennent pas, d'une certaine manière, s'oublier à l'usage, ça permettait pour le bailleur de venir interroger les locataires et par là même de les sensibiliser aux enjeux environnementaux. Ce qui venait alors complètement renforcer le rôle du bailleur d'avant-gardiste ou d'éclaireur militante sur les questions d'environnement. Et puis ensuite, la seconde stratégie, et peut-être la plus importante, sortie renforcée par l'enquête pour le bailleur, c'est celle de l'accompagnement des locataires. C'est-à-dire que tous ces décalages entre technique et usage venaient pour le bailleur démontrer la nécessité d'être en réalité beaucoup plus pertinent et beaucoup plus percutant en matière d'accompagnement des locataires au changement. Et dans ce cadre-là, les phénomènes de contre-performance constatés dans l'enquête sont venus conforter sa conviction, en argumentant du fait que l'accompagnement avait en réalité un double objectif. Il y avait à la fois l'idée de sensibiliser les locataires à l'environnement et d'atteindre les objectifs en matière de performance énergétique, mais aussi de rendre le bâtiment pérenne et de maîtriser les coûts en maintenance. Et c'est d'ailleurs quasiment mot à mot ce que m'a dit le directeur de la construction lors de ma conférence. Alors je le cite parce que j'avais noté ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit, mot à mot, « Votre enquête est intéressante car elle montre que sans les comportements adéquats, non seulement on n'arrivera pas à atteindre nos objectifs énergétiques, mais en plus, le bâtiment, il va mal fonctionner, il va mal vieillir et ça va nous coûter cher ensuite en gestion. » Et ce qui est révélateur à mon sens, c'est que là où le bailleur s'est remis en question suite à cette enquête, c'est uniquement dans la pertinence de ses outils pédagogiques. C'est-à-dire que sa principale réaction, c'était de dire « Bon, on a bien fait de faire de l'accompagnement, mais on s'y est mal pris et on a été trop vite. » Voilà, ça c'est la principale réaction qui est remontée. Et en ce sens, ce n'est ni l'orientation ni la stratégie qui a été contestée, mais le rythme et les moyens de mise en œuvre. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à ma grande surprise, l'heure d'échange après la présentation de mes travaux a quasiment été exclusivement consacrée à une discussion sur les méthodes d'accompagnement au changement. C'est-à-dire, par exemple, est-ce qu'il ne faudrait pas passer par les locataires les plus militants pour accompagner le plus grand nombre ? Et en ce sens, est-ce qu'il ne faudrait pas favoriser la constitution d'associations de locataires pour avoir un intermédiaire dans la discussion et favoriser la diffusion de l'information ? Ou encore, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt passer par des structures extérieures, plus neutres, par des associations, de manière à éviter quelque chose de trop face à face avec les locataires ? Donc, c'est vraiment les questions qui s'étaient posées, à ma grande surprise, suite à ma présentation. Et ce qui est d'ailleurs assez révélateur, c'est que le bailleur social m'a demandé quelques semaines plus tard si j'accepterais d'enquêter pour son compte, non pas sur la réception d'autres bâtiments qu'il avait pu construire pour enquêter auprès des habitants, mais plutôt de mener une enquête sur la réception des nouveaux outils pédagogiques qu'il mettait en place, pour voir justement comment est-ce qu'ils fonctionnaient et s'ils étaient adaptés à la réalité des gens pour que ça puisse être percutant. Mais plus largement, ce que je trouve intéressant dans cet exemple, c'est qu'on a une étude sociologique que moi j'imaginais au départ en fait assez subversive, voire polémique, et qui a été mobilisée par un acteur économique, donc le bailleur social en l'occurrence, pour renforcer des stratégies déjà existantes et le rapport de force qui était déjà structuré avec les locataires. Alors néanmoins, cette réaction du bailleur que je viens de décrire, c'est d'abord à mon sens une réaction d'organisation. En l'occurrence, c'est la réaction d'un employeur avec ses contraintes économiques, réglementaires, ses stratégies de développement, de communication. Et c'est d'ailleurs peut-être la raison pour laquelle c'est une réaction qui a d'abord émané des directions du bailleur. C'est-à-dire peut-être là où les individus sont au plus près des intérêts vitaux de l'organisation. Parce que ce qui m'a marqué dans la réception de l'enquête par le bailleur, c'est le fossé aussi entre la voix de l'organisation et celle des individus. Notamment dans des discussions de couloir, autour d'un café, dans un déjeuner. Et j'ai constaté notamment ce fossé avec les chefs de projet. Notamment celui qui était responsable, qui avait en charge l'animation des locataires, ou encore celui qui était responsable de la construction même de ce bâtiment. C'est-à-dire que ce qui m'a été dit en privé par ces chefs de projet est en réalité très différent de la position officielle de l'organisation. Alors, dans les discussions de couloir, ces chefs de projet ont été notamment très durs envers l'architecte, donc Édouard François en l'occurrence, et également envers le cahier des charges qui leur avait imposé des innovations auxquelles eux-mêmes ne croyaient pas dès le départ. Donc ils avaient eu l'impression de subir en fait certaines innovations techniques dans le bâtiment. Il y a eu des critiques très virulentes envers l'AMO, l'assistant à maîtrise d'ouvrage environnemental du projet, qui avait imposé véritablement une vision de technique sur les bâtiments. Et puis je terminerai là-dessus, ces chefs de projet m'ont aussi témoigné en privé en fait, d'un certain malaise dans lequel les avaient mis les résultats de mon enquête. En particulier, le responsable de l'animation en fait, avec qui j'avais sympathisé et qui s'était en fait engagé dans ce métier dans les années 90, à un moment où les problématiques de participation étaient quand même assez dominantes, et qui voyait en fait actuellement son métier prendre un tournant auquel il ne croyait pas et qui ne donnait plus vraiment sens à son engagement professionnel. Et j'ai d'ailleurs appris en fait quelques six mois plus tard que lui avait changé en fait de direction pour se mettre justement à distance en fait de son rôle d'animateur auprès des locataires qui de plus en plus se résumait à un rôle d'éducateur, ce qui n'était pas du tout sa conviction initiale. Voilà, je m'arrête là-dessus et du coup je passe la parole à Gaëtan pour la suite.
Oui, alors je prends la suite parce que effectivement je vais évoquer une enquête que j'ai réalisée en fait sur le même terrain que Vincent, alors pas sur le même immeuble quand même, sur l'immeuble d'à côté en fait, qui pour le coup était une copropriété de type BBC. Et ça faisait partie d'une recherche plus vaste où j'ai enquêté sur trois bâtiments performants où il y avait aussi des maisons passives et puis un bâtiment à énergie positive, un bâtiment de bureau un peu comme la tour Editis. Et c'est une enquête que j'ai faite suite à une rencontre avec l'architecte de ces trois bâtiments, qui s'appelle Thierry Roche, qui est un architecte lyonnais, et qui m'a donné donc accès à ces bâtiments. Et puis j'ai aussi bénéficié d'un financement de l'ADEME. Et en fait, ces trois bâtiments, c'était une occasion un petit peu exceptionnelle, puisqu'ils ont préfiguré ce qui est devenu le standard aujourd'hui à travers la réglementation thermique. Et comme ils ont été livrés en 2008, il y avait du recul. Hein, l'enquête a été faite en 2012. Au moment de l'instauration de cette réglementation, il y avait donc un recul sur l'usage de ces bâtiments. Alors le but n'est pas de présenter en détail les résultats, je vais juste les évoquer, et d'autant plus qu'ils sont tout à fait convergents avec ceux de Vincent, ce qui peut rassurer sur une certaine scientificité de la sociologie, finalement. Donc, trois grands résultats. Premièrement, mon enquête, elle a montré que les habitants ne suivaient pas à la lettre les consignes des concepteurs. Bon, ça surprendra personne. Voilà. Et que même quand ils les connaissent, finalement, ils font de la résistance et ils préfèrent inventer leur propre façon de vivre le BBC en ayant des tactiques de compromis entre les prescriptions écologiques et puis d'autres besoins qui sont liés à l'habitat. Deuxièmement, mon enquête, elle a mis en lumière une inadéquation entre les pratiques réelles et les hypothèses prises dans les modélisations, dans les calculs dont parlait le monsieur qui est parti, mais qui était là ce matin. Et donc ces écarts, en fait, créent à la fois des situations d'inconfort thermique quand le bâtiment est dimensionné pour 19 degrés, et puis créent aussi des surconsommations quand, du coup, les habitants vont rajouter des convecteurs ou des climatisations en été. Donc, finalement, c'est des formes de contre-productivité, comme tu disais, Vincent. Et puis, troisième résultat qui est important, c'est que j'ai un peu renversé le discours dominant à l'époque, qui était celui de la responsabilisation ou de la responsabilité des habitants vis-à-vis de tous ces problèmes, en disant, bah non, finalement, on voit que c'est plutôt dans la manière dont les professionnels impliquent ou non les habitants dans la conception, dans la gestion de ces bâtiments, qu'on voit qu'il y a des marges de manœuvre, parce que finalement, une fois qu'on livre les logements et que les habitants sont dedans, il y a des contraintes et ils ne peuvent pas faire grand-chose. Voilà un aperçu des résultats, et c'est donc une étude qui a été assez largement diffusée dans le milieu professionnel du bâtiment, via l'ADEME, via le Roi Merlin Source aussi, qui était un réseau qui avait participé. Il y a eu des articles dans le Moniteur, pour ceux qui connaissent, donc dans la presse professionnelle. Et ça a engendré deux grandes catégories de réactions, donc c'est ça que je vais un peu détailler. D'une part, une controverse avec les promoteurs, on va dire, de la performance énergétique radicale. Et puis d'autre part, des collaborations ou des inspirations avec des professionnels qui étaient plutôt engagés dans l'innovation sociale. Alors, le premier qui a réagi de manière un petit peu vive en lisant le rapport d'étude, c'est l'architecte qui avait lui-même commandé, en fait, d'une certaine façon, ou qui était au comité de pilotage de cette étude, qui, en lisant les verbatims des habitants qui se disaient insatisfaits du confort thermique, s'est senti presque personnellement attaqué. Il s'était énormément investi dans ce projet. Et j'ai même dû, d'une certaine manière, faire une opération de câlinage en lui disant que... Mais les habitants trouvaient aussi que le bâtiment était très confortable sur le plan des espaces, de la lumière, il y avait des grandes terrasses, et que relativement aux habitations qu'ils avaient pu avoir par ailleurs, ils en étaient satisfaits, comme tu disais ce matin. Mais en fait, la controverse, elle est surtout venue donc d'un ingénieur qui a réalisé la conception énergétique de ces trois bâtiments et qui a aussi mené des campagnes de mesures sur ces bâtiments et d'ailleurs l'ensemble de la ZAC de Beaune. Et au-delà de son rôle en fait sur ces bâtiments, c'est intéressant parce que c'est une autorité morale en fait dans le secteur du bâtiment. C'est quelqu'un qui incarne la pensée de l'ingénierie environnementale. Et son discours a fortement influencé les pouvoirs publics autour de la mise en place et du renforcement, finalement, de ces standards de performance énergétique. Et donc, il a formulé, de manière assez virulente, trois types de critiques à l'étude que j'avais pu réaliser. D'abord, une critique de type, on va dire, épistémologique, qui consistait à contester la réalité de l'inconfort ressenti par les habitants, en fait montrant des courbes de mesure de température des logements qui montraient effectivement que dans 95% des cas, les températures étaient supérieures à 19 degrés, et donc il en concluait finalement que les gens n'avaient pas pu avoir froid. Donc moi, ce que j'en tire, c'est surtout que finalement, on a des outils d'observation différents, une sonde de température dans un cas, et puis l'entretien dans un autre, et que finalement, ces outils, ils montrent des facettes différentes de la réalité. Il n'y en a pas une qui est forcément plus vraie que l'autre. Par contre, la question qu'on peut se poser, c'est voilà, est-ce qu'on peut se contenter de réduire l'humain et le confort à un paramètre mesuré par une sonde. Deuxième type de critique, qui est plus méthodologique, qui contestait finalement la représentativité de mon échantillon, qui effectivement n'était que de six logements sur un bâtiment qui en comptait une quarantaine. Bon, c'était diversifié en termes de position des bâtiments, de type de ménage, mais il n'y en avait que six. Et en me plongeant dans le rapport de mesure, donc, j'ai constaté que lui n'avait en fait mesuré que dans 4 logements. Donc du coup, l'argument tombait complètement, d'autant plus que vous l'avez vu avec Vincent, les résultats en fait, d'autres enquêtes qualitatives venaient confirmer, et dans d'autres bâtiments auxquels il avait participé également à la conception, venait confirmer les résultats de l'enquête que j'avais pu faire. Puis la troisième critique, qui est peut-être la plus intéressante, c'est cette fois sur un registre politique. Hein, et donc là, elle était moins adressée à mon travail qu'aux sociologues en général. C'est la critique qui consistait en fait à dire que la démarche compréhensive des sociologues, en mettant en lumière les bonnes raisons des habitants d'agir comme ils le font, vient justifier moralement l'inertie des pratiques et donc ralentir la transition énergétique. Et donc on voit ici que cette critique, elle sort un peu de la posture scientifique, elle vient sur une attitude, on va dire, qui est plus militante, qui cherche à pousser, à imposer une solution fondée finalement sur la croyance que le progrès technique va nous permettre de nous prémunir contre le réchauffement climatique. Donc moi, je nie pas du tout que ces croyances, elles n'ont pas une efficacité à un moment donné, en l'occurrence au début de la courbe d'innovation, quand il s'agit d'inventer, il faut bien croire que son invention va avoir un effet, sinon on ne fait rien. Mais une fois qu'on cherche à diffuser l'innovation, c'est aussi intéressant d'avoir une approche pragmatique, parce que la socio, elle peut permettre de voir les effets inattendus, puis les contraintes éventuellement de cette diffusion. Donc au final, une controverse qui est assez stérile, mais qui au moins a permis de mettre en relief qu'il existait cette conception, on va dire, technocratique de la transition énergétique, où le changement décidé par quelques-uns s'imposerait à tous via la technique et la réglementation. Alors heureusement, en parallèle, ce travail de recherche, il a aussi donné lieu à des interactions beaucoup plus productives avec d'autres professionnels du bâtiment qui, en fait, étaient déjà convaincus, effectivement, qu'il y avait un problème au niveau de l'humain. Et donc, je n'essentialise pas du tout les ingénieurs. C'est juste qu'effectivement, là, on va voir qu'il y a deux types, en fait, de pensée ingénieur. Donc, déjà, loin de moi l'idée que, effectivement, de dire que mon étude a déclenché chez ces gens une réflexion sur le sujet, c'est plutôt des gens, en fait, qui étaient déjà convaincus qu'il fallait faire quelque chose au niveau de l'humain. Et donc, en échangeant avec eux, ce que j'ai pu observer, c'est que les résultats de cette recherche, elles ont participé à 3 types d'innovations sociales. Alors, premièrement, en fait, l'émergence d'une nouvelle fonction professionnelle dans le bâtiment, chargée spécifiquement de la prise en compte de l'usager. Donc, c'est celle d'assistant à maîtrise d'usage, donc qui va intervenir dès la conception pour aider les professionnels à intégrer les usagers dans les choix, et puis à la livraison du bâtiment, ou en cas de crise, quand il s'agit d'accompagner les occupants vis-à-vis de la prise en main des logements, donc l'accompagnement dont parlait Vincent. Donc avec un Lyonnais qui s'appelle Ludovic Jiquel, on a créé un réseau qui s'appelle Amusage, justement, assistant à maîtrise d'usage, et qui rassemble des professionnels souhaitant s'investir sur ce créneau, finalement, à partir de compétences assez éloignées du bâtiment, puisque c'est plutôt des gens qui ont des compétences en animation, en conseil, en organisation, en vulgarisation scientifique ou en développement personnel. Et Ludovic, il parle avec beaucoup d'humour de communication double flux. En fait, pour dire que, pour mettre l'accent qu'il ne s'agit pas seulement de transmettre des bonnes pratiques, de faire la pédagogie des bonnes pratiques, mais aussi d'écouter les habitants pour adapter le fonctionnement du bâtiment. Deuxième type d'innovation, on va dire, associée à cette recherche, c'est un nouveau statut de la technique dans la conception architecturale. Finalement une technique, une conception, pardon, qui va plutôt mettre l'accent sur l'appropriation de la technique que sur son efficacité intrinsèque. Donc là, c'est par exemple notre architecte Thierry Roche qui s'est repris, on va dire, et qui aujourd'hui ne parle plus de performance énergétique, mais de performance d'usage. Hein, et donc qui cherche aujourd'hui, comme il le dit, à construire des espaces capables. Hein, et donc c'est des espaces qui vont faciliter l'appropriation par les habitants. Donc par exemple, là, il vient de construire un immeuble avec Bouygues Construction, où en fait, il a pas aménagé, mais laisser un espace sur le toit terrasse pour en faire un jardin collectif. Et donc, il y a un certain nombre de moyens qui sont prévus dans le programme pour permettre aux habitants de la copropriété de s'aménager eux-mêmes leur espace. Et puis, il y a une autre architecte qui s'appelle Marine Morin, qui, elle, a écrit un traité de l'architecture soft-tech, dans lequel elle prône, alors, je cite, « une technique non traumatisante et un bâtiment sans notice ». Et en fait, dans sa conception à elle, la technique, elle ne viendrait pas imposer de nouveaux usages, mais plutôt s'insérer dans les usages existants. Donc, exemple, au lieu de mettre en place des automatismes sur les volets, elle va privilégier les systèmes manuels en tenant compte des spécificités régionales, des cultures régionales au niveau des volets. On sait qu'il y a plein de types de volets différents. Et ça, elle le fait dans des bâtiments BBC très performants. Troisième type d'innovation sociale, et je m'arrêterai là, associée à l'étude, c'est, on va dire, des nouvelles méthodes de conception des bâtiments intégrant davantage les usagers et les professionnels. Donc toujours cette même Marine Morin, architecte, qui en fait est l'auteur du premier habitat participatif mixte avec un HLM, donc qui s'appelle le village vertical, dans lequel elle a impliqué les futurs habitants dans la conception à travers des ateliers en fait participatifs. Donc elle leur a pas demandé de faire les choix techniques à sa place, simplement elle les a aidés à projeter leur mode de vie et à choisir ce qui serait individuel, ce qui resterait individuel et ce qui serait mis en commun, plus collectif dans l'immeuble. Et puis on a aussi d'autres exemples pour les quartiers ou pour les bâtiments, comme l'architecte Marika Frenet, qui utilise ce qu'elle appelle la méthode de conception intégrée, qui rompt avec les habitudes de travail séquentielles du bâtiment, hein, où il y a l'architecte qui conçoit, puis donne au bureau d'études, puis ensuite c'est les entreprises. Là, dès le départ, en fait, les choix de conception se font toujours en atelier, mais cette fois, qui rassemble tous les intervenants du bâtiment, tous les professionnels, y compris ceux de Laval, ceux qui vont gérer les bâtiments, les techniciens de maintenance, et puis aussi les usagers, alors qui sont parfois représentés par des élus. Voilà, donc au final, vous avez vu une étude qui a au départ généré de la résistance chez certains acteurs qui n'avaient finalement pas intérêt au changement, et puis au contraire, qui a aidé d'autres acteurs à innover, hein, et à faire évoluer leurs pratiques professionnelles.
Moi aussi, j'ai travaillé sur la caserne de Bonn, également financée par l'ADEME, que je vous remercie pour avoir fait financer mes salaires d'une part significative depuis 5 ans, sur des études sur sociologie de l'environnement, du climat, de l'énergie, donc quelque part avec quelqu'un qui s'intéresse à tout ça à l'ADEME. Voilà. Mais je ne parlerai pas de la caserne de Bonn aujourd'hui. Je vais vous parler de deux études très rapidement, et je parle d'études et je vais vous parler un petit peu de comment je vois ça dans mon programme de recherche. Tout d'abord GreenList, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est une expérimentation de Smart Grids, donc une nouvelle technologie qui relie plusieurs résidences ménages et qui vise en fait à officiellement à encourager les sobriétés grâce à une meilleure connaissance de la consommation énergétique à domicile. Et en connectant tous ces gens-là ensemble, permettre aussi à l'agrégateur fournisseur d'énergie de faire des effacements. Quand l'énergie est très chère le matin, entre 7h et 8h par exemple, on efface, on arrête, on fait le chauffage pendant une heure et le surplus d'énergie peut être vendu par l'agrégateur à des prix très chers. En même temps, le consommateur, lui, ne paye pas son énergie alors qu'elle est plus chère. Ce qui veut dire qu'il faut aussi avoir une offre tarifaire. Alors, quelle est l'ampleur de l'offre de la complexité de l'offre tarifaire, on ne sait pas. L'offre techno, parce que ça prend des boîtes techno pour faire ça avec un suivi sur ordinateur, etc. Et numéro 3, quid de l'effacement. D'ailleurs, il y a au début de l'étude, quand j'ai été associé, l'effacement était vendu comme un service au client. Ce que je trouvais un peu aberrant comme manière de faire les choses. Voilà. Deuxième étude, c'est sur la mise en œuvre d'une ZAPA à Grenoble, donc une zone d'action prioritaire sur l'air, qui est une forme assez brutale, en fait, d'interdiction de certains types de véhicules pour réduire la pollution. Et non pas pour la réduire de manière globale, etc., mais pour la réduire à un niveau acceptable selon les normes européennes. La France étant en contentieux en ce moment sur deux formes de pollution à hauteur de au moins 100 millions d'euros, s'il faut payer le CV. Donc, dans le cadre de la ZAPA, il y a eu des entretiens semi-directifs et sondages à grande échelle, etc., sur la santé, la pollution, les circulations automobiles, etc. Et sur Greenwich, je reviens, c'était sur des entretiens semi-directifs surtout. Alors, je vais passer quand même comment s'est construite ces études. Alors, ce sont pour moi les études, mais ces études posent le type de questions qui, moi, m'intéressent dans mon programme de recherche, qui vise à comprendre les obstacles et les freins au changement de comportement pour aller dans une direction d'une société post-carbonisée. Okay. Ça peut être des freins organisationnels au sein d'une institution, comment les services fonctionnent ou pas les uns avec les autres, mais aussi en termes de représentation, de valeurs, de comportement, d'habitude, de poids du quotidien, en fait, sur les efforts de changement. Et donc, en fait, moi, ça me permet, en fait, au travers d'études qui servent à quelqu'un, de moi nourrir mes réflexions théoriques sur la place du développement durable, c'est pas pour rien que je suis dans le réseau, et ma critique du durable là-dessus. Alors, la première chose qui s'est passée sur la co-construction de l'étude de ZAPA, c'était tout d'abord, on veut savoir si la ZAPA est acceptable par la population grenobloise ou pas. Vous me demandez, en fait, de participer à ça, ça ne sert à rien, c'est non. Ne dépensez pas votre pognon là-dessus. En revanche, si jamais la ZAPA ne passe pas pour une raison ou une autre, il faudra peut-être penser à faire une étude beaucoup plus élaborée sur la mobilité, le report modal, les liens qui sont faits ou non par rapport à la pollution, etc. sur la population grenobloise. On venait de recevoir l'enquête ménage déplacement, on avait des nouveaux chiffres montés. Certains des chiffres n'étaient pas explicables de manière quantification. Il fallait rentrer dans les représentations, dans les raisons pourquoi les gens se déplacent ou pas. En 5 minutes, c'était bouclier, c'était vu. L'avantage avec la métro à Grenoble, c'est que ce sont des gens hautement compétents. Le problème, c'est qu'on ne peut pas leur faire passer n'importe quoi. Ils n'ont pas les compétences à l'interne pour monter un sondage, mais ils ont les compétences à l'interne pour savoir si le sondage est bon ou pas et de vraiment participer à la co-construction du sondage. Et ça, c'est comme ça avec la métro à chaque fois. Donc, on a affaire à des gens avec Lyon sur la mobilité, ça a été pareil. Rapidement, en fait, ça a été, si la ZAPA ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre qui va quand même, à moyen et à long terme, avoir un effet sur la pollution à Grenoble, une des 7 villes les plus polluées de France, tout de même. Dans le cas de Greenwich, là, c'est un consortium privé, GDF, Schneider, RDF, EDF, Pensionnet, ils sont là. Et en fait, c'était sur l'acceptabilité de ces trois offres, l'offre tarif. L'offre technologique et l'offre tarifaire, et ils avaient inclus l'effacement dans l'offre du service. Et moi, je me dis, mais je ne suis pas sûr que le mot acceptabilité soit pertinent ici. Ce serait plutôt la question, est-ce que je comprends ce que je fais pour rebrousser chemin? Deux, est-ce que c'est approprié? Et si ça l'est, jusqu'à quel point et par qui? Est-ce qu'on ne peut pas voir des profils énergétiques ou des profils sociologiques émerger? Un résultat que j'ai trouvé intéressant, tout le discours de Greenwich tourne sur l'efficacité et la maîtrise de l'énergie. La majorité des gens, environ les deux tiers des gens qui sont impliqués dans Greenwich ne sont pas intéressés par l'énergie. Ils sont intéressés par autre chose. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intéressés par Greenpeace, mais enfin, on a beaucoup de techno ludiques qui veulent avoir le dernier machin. Techno qui vient de sortir, ils veulent l'avoir avant les autres. Voilà. L'énergie, ça ne leur dit rien du tout. Ensuite, deuxième groupe, il y a les énergéphiles, exactement, qui comprennent les kilowatts, qui comprennent un effacement, pas besoin de leur expliquer en entretien, pendant qu'on fait l'entretien sur les directives. Tous les autres, un effacement quoi. Et pourtant, c'est expliqué dans les pamphlets, c'est expliqué sur le site internet, c'est expliqué lors de la prise de contact, c'est immédiatement oublié. Donc, il y a un paquet de choses comme ça sur lesquelles on a travaillé. Alors, l'utilisation de tout ça. Ben, juste sur une autre étude sur la mobilité à Lyon, je vous raconte juste une anecdote. En fait, c'est Dominique qui me l'a rappelé tout à l'heure. On a développé, donc j'avais développé un paquet de préconisations en 2008, je pense, sur comment mettre de la pression sur l'automobile en favorisant les piétons avec les feux rouges, plus de feux, des voies respectées. Et donc, 8 mois après avoir remis mes préconisations, je vais à Lyon en voiture, c'est rare, je me promène sur un grand boulevard et franchement, je me mets à râler comme un automobiliste convaincu qu'il y en aura de bol. Et donc, j'appelle Pierre Crépeau du Grand Lyon à l'époque qui était en charge de la mobilité. Dis donc, Grand Boulevard, là, j'ai dit, t'as fait exprès ou quoi? Il dit, t'es sur quel boulevard? Je lui dis. Il dit, ouais, on a mis des trucs en œuvre, ça marche, hein? Ouais, ça marche très bien, prochaine fois que je vais en train, quelle que soit l'heure à laquelle je retourne. Et certaines de ces préconisations que j'ai faites pratiquement verbatim ont été ensuite retranscrites dans la stratégie énergétique du Grand Lyon. Donc ça fait vachement plaisir, en fait. Ensuite, pour qu'est-ce qui est mis en œuvre ou pas, opérationnellement et à quel point, c'est autre chose. Mais en tout cas, sur ce boulevard, là, c'était convaincant. Moi-même, je me suis énervé. Alors, la réception de Greenpeace, c'est qu'il y a eu une conférence de presse. Les 3/4 des questions de la part des médias, c'était sur « Oui, mais l'usager là-dedans, qu'est-ce que vous en faites? Vous ne les prenez pas en compte, encore une fois, comme un gros projet techno, etc. » Et là, ils ont dit, ben justement, on a un chercheur sociologue, membre du GIEC, expert sur les questions d'énergie, qui en fait est en train de nous faire une étude sur l'acceptabilité, comment rendre notre produit beaucoup plus acceptable, appropriable et plus efficace et pertinent pour les usagers. Donc, vous voyez ici, ce que j'aborde ici, c'est en fait l'exploitation ou l'utilisation par le commanditaire du chercheur. Le chercheur en soi. Sa légitimité de parole, son statut, sa discipline. Sur la Zappa, vous savez ce qui s'est passé, il n'y a aucune Zappa en France qui a été acceptée. Okay. On était finalement seulement 2 villes à vouloir continuer le processus jusqu'au bout. Ce que je trouve dommage en termes de valorisation de la recherche, c'est que l'étude Zappa qu'on a faite, incluant faisabilité économique, technique, etc., faisabilité, acceptabilité, c'était la plus grosse qu'on a été capable de ressentir dans toute l'Europe. On avait tous les outils en main pour savoir exactement quoi faire pour non seulement faire accepter, mais accompagner les gens, incluant un accompagnement financier, quand c'était nécessaire. Le chargé de mission, l'élu responsable du climat et de l'air, Jean-Marc Curie à l'époque, médecin, il y avait sur l'équipe un épidémiologue, il y avait Aeronalp, il y avait des gens hyper qualifiés, techniciens, il y avait des gens des métros aussi qui travaillaient, il y avait sociologues et politologues, il y avait toute une équipe de Sciences Po qui était là aussi, avec le sondage, on avait toutes les réponses, et ça s'est mal passé avec les ministères ici à Paris. Mais surtout, en conseil, le jour est venu de voter pour ou contre les Zappa, ils se sont empoignés physiquement avant de rentrer même dans la réunion. Empoignés physiquement, les élus. Parce que c'était une grosse question. C'était, là, on ne parle pas d'environnement, on parle de santé. Santé. C'est 1000 morts par année prématurées, 9 mois de moins sur votre espérance de vie, etc. Et les emphysèmes pour les bébés, problèmes respiratoires, etc. etc. Ça n'est pas passé, et Jean-Marc Curie a donné sa démission. Il était convaincu qu'on avait les réponses, il avait essayé de convaincre. Ça n'a pas marché. Mais ça, c'est la réception, donc l'acceptabilité politique, me semble, moi, moins grande que ce qu'aurait été l'acceptabilité sociale. En fait, mon interprétation, c'est que les élus ont une représentation de ce qui était acceptable ou non là-dessus, qui n'était pas tout à fait conforme à ce que la réalité était. Il ne voulait surtout pas prendre le temps au principe de précaution électorale. En revanche, pour les services, ça c'est autre chose. On ne peut pas mettre une ZAP en œuvre, c'est un cadre réglementaire, c'est du bourrin, mais il y a autre chose qu'on peut faire. Et toutes les autres mesures qu'on a mises en œuvre, on peut les voir. Les nouvelles agences de mobilité, de multimobilité à Grenoble, proviennent justement de cette... La forme, la manière de communiquer le message proviennent de cette étude. Et les services et le plan de local de déplacement, ils sont influencés grandement par l'étude. Donc, on n'aura pas d'effet à court terme sur la pollution à Grenoble, mais on va avoir des effets à court terme, à moyen et à long terme. Malheureusement, d'une certaine manière, mais c'est mieux que rien. L'autre chose aussi pour laquelle je voulais terminer avec ça, en fait, c'est sur la légitimité, le nombre de fois où, en tant que chercheur, je suis demandé, par exemple, on me demande, est-ce que vous pourriez venir présenter vos recherches sur tel sujet dans notre collectivité territoriale, pour le conseil régional, pour le conseil général, voilà. Donc oui, on négocie, chercheur contractuel, je le fais payer un petit peu quand même, merci, ça se passe bien, puis c'est toujours la même chose, okay? Genre une semaine plus tard, la personne en charge me rappelle, c'est bon, ça a été validé par l'élu ou mon responsable. Bon, maintenant entre nous, j'ai un petit service à vous demander. En fait, on a des gros problèmes en interne, ça marche mal le plan climat, les gens sont pas convaincus. Est-ce que vous ne pourriez pas vous arranger pour les convaincre que c'est pas si difficile que ça? Et des fois, c'est les élus qui ne comprennent rien. Ils sont bouchés. Et puis là, il faudra essayer de convaincre les élus que les rappeler que c'est réglementaire obligatoire pour des collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants, etc. Mais au-delà du fait que c'est réglementaire obligatoire, peut-être qu'il y a des bonnes raisons de le faire aussi. Et ensuite, c'est la discussion sur le type de justification d'argument que je peux utiliser pour convaincre ces gens-là que finalement, c'est peut-être pas si difficile que ça ou qu'il y a peut-être des bonnes raisons de le faire. Autre que les climats. Et là, je te rejoins complètement. Vous voulez sauver le climat, parlez d'autre chose.
Pour terminer, en discutant, en préparant l'intervention, on a une petite typologie qui a émergé, donc pour faire plaisir à Sylvain qui disait que c'était une de nos compétences. Donc je vous la livre en conclusion. Voilà, c'était finalement les trois modes de réception des recherches en sciences humaines et sociales qui sont un peu dessinées au fil de nos interventions. Donc les trois manières dont les professionnels s'approprient des recherches en sciences humaines et sociales, c'est tout à fait critiquable ensuite dans la discussion. Donc premièrement, la controverse. Donc quand les résultats de recherche viennent alimenter un débat public, le débat d'experts, à ce moment-là, les recherches vont engendrer de nouvelles prises de position des acteurs, alors souvent qui peuvent être de l'ordre de la résistance, hein, qui vont alors contester la validité des résultats, qui vont contester leur efficacité sociale, mais ça peut être parfois aussi de l'ordre du satisfecit, quand ils se sentent approuvés dans leur action. Donc ici, l'appropriation, elle en reste finalement au niveau du discours et elle ne va pas toucher les pratiques des acteurs. Le deuxième type d'appropriation, c'est l'instrumentalisation des résultats quand ils sont utilisés par les acteurs pour renforcer leur stratégie préexistante à la recherche. Donc, instrumentalisation, ça sonne négatif, ça ne l'est pas forcément toujours, ça veut dire utilisation, mais ça peut parfois aller à l'encontre des intentions initiales du chercheur, soit parce qu'il a aidé... Il a voulu aider les acteurs à faire un pas de côté, ou parce que les résultats ont été compris à l'envers. On sait qu'on a le biais de confirmation. On vient sélectionner seulement ce qui renforce les idées qu'on a déjà. Donc là, l'appropriation des résultats, elle descend jusqu'aux pratiques, notamment quand elle vient renforcer les moyens que les acteurs mettent au service de leur stratégie. Et puis le troisième mode d'appropriation des résultats de recherche, c'est l'innovation, finalement, quand ces résultats de recherche vont transformer les représentations que les acteurs se font du problème et ou engendrer de nouvelles pratiques professionnelles, voire de nouvelles logiques organisationnelles et politiques. Alors c'est évidemment la forme d'appropriation la plus complète, car elle engendre du changement, mais c'est aussi la plus rare, car ça a été dit tout à l'heure, Il ne suffit pas d'une seule recherche hein, pour changer les pratiques des acteurs. Il faut que ça rejoigne d'autres facteurs de changement convergents et que ça s'inscrive dans la bonne fenêtre de tir. Voilà, et donc pour terminer, on voulait aussi terminer sur un sentiment collectif qu'on avait en tant que chercheur, c'est qu'on ne peut pas en fait complètement maîtriser la réception des travaux, parce qu'une partie reste invisible, une partie reste hors de portée, mais que ça n'empêche pas de construire des collaborations ponctuelles, justement, pour augmenter la diffusion de ces résultats ou leur efficacité sociale.